Je suis ton frère.
Je suis ta grand-mère.
Je suis ta voisine.
Je suis ton fils.
Je suis ta collègue de travail.
Je suis ta coiffeuse.
Je suis ton photographe.
Je suis ta maman.
Je suis ta collègue
je
de travail.
Je suis ta coiffeuse.
Je suis ta maman.
En septembre 2025, à la Côte-Saint-André, la communauté de communes de Bièvre-Isère a proposé une formation Making Waves à une équipe de soignantes et de patients et patientes du CMP. Au départ, il s'agissait de découvrir un studio mobile, d'explorer la radio comme outil de médiation. Mais très vite, autre chose s'est passée. Les micros ont ouvert un espace inattendu. Celui de la parole qui circule, des récits intimes qui cherchent à se dire et du désir de partager. Ce que vous allez entendre est né de ces moments-là. Les prises de son ont été réalisées par les patients et patientes ainsi que les soignantes du CMP de la Côte-Saint-André et mises en forme à travers un montage Making Waves.
C'est tout d'abord une rencontre. J'essaie d'accueillir le patient avec ce qu'il amène, sa souffrance, mais aussi son histoire de vie, son quotidien, son histoire familiale, sociale, sans être en position de sachante. J'accueille la personne avant d'accueillir le patient. Et c'est avant tout un savoir-être.
Dans mon lien au patient, dans mon boulot, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête quelque part, que la personne que j'ai en face de moi, c'est la grand-mère, le grand-père, le fils de quelqu'un. Et du coup, j'ai toujours à cœur de soigner cette personne comme j'aimerais qu'on le fasse moi avec mes proches.
Moi qui suis un peu rêveuse, j'ai l'impression finalement, dans l'accompagnement auprès des patients, d'être dans la vraie vie, celle qui bouscule, qui met en mouvement et qui pousse à réfléchir, à être en questionnement permanent et surtout questionner constamment quel est le sens, relativiser, se recentrer sur l'essentiel. Moi, ça me réancre, ça me remet les pieds sur terre. Voilà, c'est aussi beaucoup de... un sentiment d'humilité, de... j'aime pas trop... aussi, j'utiliserais le mot respect... une grande reconnaissance quand même pour ce qu'ils ont à affronter au quotidien, chaque jour après chaque jour, cette maladie qui finalement, effectivement, hein, c'est un ou voire des handicaps.
Ce que vous venez d'entendre, ce sont les soignantes du CMP de la Côte-Saint-André. Aux côtés d'une partie de leurs patients et patientes, elles ont livré, en quelques mots, la réalité de leur métier et le retentissement que cela provoque en elles. Pendant les semaines d'information sur la santé mentale en Bièvre-Isère, ayant eu lieu fin 2025, l'équipe a choisi de faire entendre les témoignages des patients et patientes. Parce que la santé mentale nous concerne toutes et tous, elle fait partie de l'expérience humaine et elle est essentielle au vivre ensemble.
Mon quotidien d'avant et d'aujourd'hui. Avant, j'avais de nombreux amis, du moins je le croyais. Parce que c'était ça ou personne. Aujourd'hui, mes contacts sont plus distants, mais aussi plus proches. Une fois encore, je le crois. Avant, je perdais plus en ayant des amis. Aujourd'hui, je pense perdre moins en choisissant mes fréquentations. Avant, j'avais un travail que je trouvais valorisant. Aujourd'hui, je ne travaille plus et je me sens sans valeur aux yeux des autres, alors que c'est faux. Avant, j'avais des soi-disant amis grâce ou à cause du cannabis. Aujourd'hui, je pense avoir des amis fiables, mais mon expérience d'avant me fait douter. Avant, je vivais sans me faire de soucis ni me poser de questions. Aujourd'hui, tout contact, même visuel, me fait me poser des questions et avoir des craintes. Avant, je me sentais en bonne santé psychique, sans traitement, alors que je n'allais pas bien. Aujourd'hui, je pense aller mieux, mais le fait d'avoir un traitement me fait me sentir moins bien aux yeux des autres. Avant, je pensais avoir une vie longue et insouciante. Aujourd'hui, après avoir frôlé la mort, j'ai du mal à prévoir un lendemain.
J'ai ressenti beaucoup de choses à l'intérieur de moi quand même. C'est des histoires comme ça qui sont... l'avoir fait comme ça, des histoires très courtes, avec une voix très posée, ça fait vraiment ressortir beaucoup d'émotions. Et ça nous rappelle qu'en fait, le monde est compliqué et en fait on ne le vit pas tous de la même façon. Et ça fait réfléchir.
J'ai trouvé que les gens finalement se sentent bien seuls, que nous sommes à côté de gens qui souffrent bien souvent, sans oser en parler, sans oser le dire. Voilà, ça veut dire que même quelqu'un de très proche ne voit pas que la personne va mal.
Les phrases qui nous brisent. Bouge-toi. Dépressif un jour, dépressif toujours. Il suffit de le vouloir pour s'en sortir. Les psys, c'est pour les fous. Si avoir un psy, c'est que t'es folle ou fou. Ça va durer encore longtemps. La dépression, c'est dans la tête. On dirait pas que t'es dépressif. Arrête ton traitement, ça sert à rien. Tu as essayé telle ou telle chose ? Ah ben t'as grossi. Tu n'as pas de raison de déprimer, il y a pire que toi. Assister, t'en sortiras jamais. Cassos. C'est pas en faisant ça que ça ira mieux. Dépression et déprime, c'est la même chose. Pourquoi tu parles pas? Tu fais la tête? Habille-toi et sors. Tu n'es pas dépressif, tu souris tout le temps. Arrête tes faux suicides. Ta psy ne sert pas à grand chose. Le suicide, si tu en parles, c'est que tu vas pas le faire. Tu fais rien de tes journées. Arrête de te plaindre, avance.
Dans la dépression, le plus dur, c'est la souffrance psychique. Un mal invisible qui occupe toute la pensée, la rendant invalidante, l'esprit est totalement pris, nous mettant à l'écart volontairement et pour nous isoler des stimuli supplémentaires. La pensée n'est plus qu'axée sur la souffrance. La vie et la vision est dans un tunnel. On se retrouve à recherche d'échappatoire. Une recherche quotidienne pour s'évader. Une lutte qui consomme toute l'énergie disponible, entraînant un plus grand isolement qui enlève les repères, les envies, les passions, créant des scénarios menant à l'automutilation ou au suicide pour se soustraire de la souffrance.
Je comprends tout à fait ce genre de situation. Je pense qu'on peut vite basculer malheureusement de l'autre côté quand on est assez triste, assez des situations qui peuvent vite nous dépasser, et je pense qu'effectivement on peut vite passer de l'autre côté.
Je pense que peut-être dans un ou deux premiers temps ça peut être un appel à l'aide, mais je comprends aussi que ça peut être une porte de sortie face à cette vie qui est lourde, qui est fragile. Vraiment, je le comprends et j'ai envie de dire, je le respecte.
Mon histoire commence à l'âge de 21 ans. À l'époque, je travaille, gagne bien ma vie. J'ai mes amis, mon appartement. Ma vie est parfaite. Je décide de partir en Angleterre pour apprendre l'anglais, dans l'optique de voyager ensuite à travers l'Europe. À mon arrivée, je loge dans une auberge de jeunesse, rencontre des personnes du monde entier. Je suis fasciné par cette nouvelle vie qui s'ouvre à moi. Petit à petit, je perds le sommeil, commence à tenir des propos incohérents, à avoir des interactions sociales erronées. Au bout de 6 jours, je pète les plombs. Ça y est, je pense que je vais pouvoir changer le monde. Entre délire mystique, on me met dans un taxi. Je cherche à sauter. Une fois à l'hôpital, je monte sur une chaise et scande que je peux changer le monde. Après 12 heures en cellule d'isolement, je suis interné en psychiatrie dans une unité protégée. Seulement 8 patients, autant de soignants, des caméras partout. Une cour de 50 mètres carrés encadrée par des murs de 6 mètres de haut, où je ne peux pas sortir seul. En étant délirant, je pense que je suis ici à cause de la CIA et que le président Obama veut me protéger. Mais je me sens bien. J'apprends l'anglais, je suis proche de mes soignants et des autres patients. L'ambiance est quasi familiale. Le système anglais est beaucoup plus adapté que le système français. 4 mois plus tard, je suis rapatrié par avion et accompagné par 3 soignants. Arrivé à Paris, on m'hospitalise. Les conditions sont lamentables. Je ne peux même pas choisir ma place où je veux manger. Aucun accompagnement, aucun passe-temps. Une cour où les patients sont livrés à eux-mêmes donne lieu à des bagarres. Certains ramassent les mégots dans les cendriers pour fumer les filtres. Je suis complètement sédaté et ignoré. Après 2 semaines, je suis conduit à Saint-Égrève où je termine mon séjour hospitalier au bout de 4 mois. Il faut savoir que j'ai été hospitalisé 3 fois. Une première à l'âge de 21, une seconde à 25 ans et enfin à 36 ans l'année dernière. J'ai visité 6 établissements psychiatriques au cours de ma vie. Des belles rencontres, mais aussi énormément de solitude, de la souffrance, de l'incompréhension. J'ai aussi fait souffrir ma famille. Après un peu plus de 7 mois en hôpital psychiatrique, je rentre enfin chez moi. Enfin, chez ma mère. Les difficultés financières et administratives m'ont contraint à abandonner mon appartement et mon autonomie. Je vais très mal. Ne pensez pas qu'on est guéri une fois qu'on sort de l'hôpital. J'ai pris plus de 20 kilos. Mon entraînement temps a laissé place à une profonde dépression. Ma vie se résume à de longues siestes, affalées sur le canapé du salon. Les jours se suivent, se ressemblent. Je n'ai plus aucune envie, ni perspective. Le traitement est lourd. Je prends en moyenne 10 comprimés par jour. Plus de rêves, plus d'ambition, plus d'argent. Juste moi, ma mère, mon frère, un canapé, dans une maison trop petite pour nous 3. Je poste régulièrement des phrases épouvantables sur les réseaux sociaux. Contacte des dizaines de personnes via Messenger en recherchant du lien social. Mais mes propos sont incohérents, inintéressants, parfois agressifs. Et très souvent, je finis en vue. Seul avec pour seul soutien ma famille, je ne crois plus en l'avenir ni en la vie. Alors on s'accroche. Ma mère me soutient, m'écoute lors de longues balades à pied. Je vais au CMP. Après quelques mois de traitement, il finit par diminuer. Je cherche un emploi. Je le perds aussitôt. Je recommence. Je le perds à nouveau. L'histoire se répète. Je ne parviens pas à rester plus de 2 semaines consécutives dans le même travail. Quand on se sent mal, on attire le négatif. Je fais une mauvaise rencontre. On profite de moi. On manque de respect, de considération. Mes amis m'ignorent, partent en vacances sans moi. Je suis mis de côté, ignoré. Je pense que malheureusement, on ne peut pas être faible dans ce monde. Au cours de ma vie, j'ai commis de très nombreuses erreurs. Cela fait maintenant 15 ans que je suis atteint de schizophrénie. J'ai consommé des drogues, de la dure, de la douce, au quotidien ou lors de rêves partis, dans des quantités complètement phénoménales et excessives. J'ai fréquenté des personnes qui consommaient de l'héroïne quotidiennement. Certains sont décédés d'overdose, en marge totale de la société et sans emploi. Eux au moins, ils m'acceptaient. J'ai aussi arrêté de prendre mon traitement pendant plusieurs années. Sur certaines périodes, je ne sentais pas la différence. Mais avec le recul, je constate que j'ai fait énormément de mauvais choix, de mauvaises rencontres. J'ai été squatté, dévalorisé, dépouillé, escroqué de plusieurs milliers d'euros. Quand on est malade, on n'est rien aux yeux du monde. Désocialisé, réduit à une compensation AAH de 800 euros par mois, cantonné en logement social, l'image de soi et l'estime de soi est complètement anéantie. Et personne n'est en mesure de vous relever ou de vous comprendre. Enfermé dans le noir pendant 6 jours, face à une falaise n'osant pas sauter, surpris par un passant à quelques mètres d'une voie ferrée, prêt à passer le pas. Le chemin est long et complexe, et tout ne tient qu'à moi. Les années passent, les traitements diminuent, je me sens mieux, je me reprends en main. Je décide de me relever, porté à nouveau par cette envie de vivre, de découvrir, de vibrer. J'ai malgré tout gardé mon âme d'enfant et ma soif de découverte et de nouvelles rencontres. Je m'installe chez ma cousine dans le sud. On vit ensemble dans un château, avec son partenaire et mon petit-neveu que je considère comme un mini-pote. On rit, on vit. Je reprends le sport, j'organise des séances, attire jusqu'à 30 personnes, transforme mon corps en un physique athlétique et attractif. Je me sens bien, je suis rempli de rêves, d'ambitions, de perspectives. La vie retrouve sa saveur. Je rencontre des dizaines de personnes géniales, plus ouvertes. Je cache évidemment ma maladie. Je m'inscris à un atelier d'écriture et découvre une passion pour le rap. On organise des concerts, on enregistre en studio. J'ai la chance de chanter devant plus de 300 personnes. Ma musique évoque mon parcours, certains sont très touchés. Je développe un optimisme débordant. 2 heures plus tard, je m'installe en Haute-Savoie à la frontière suisse. C'est un paradis auprès du lac Léman. Je deviens séducteur confirmé et rencontre une femme magnifique qui partagera ma vie pendant 3 ans. Les voyages à l'étranger deviennent fréquents. Je travaille, je gagne 4500 euros par mois. Je suis propriétaire de 2 appartements. Pars en vacances dans des palaces 5 étoiles avec piscine sur le toit et voiturier. J'ai pris enfin ma vengeance sur la vie et je ne suis plus un paria aux yeux de personne. On se sépare, je sombre à nouveau. Je perds mon emploi, c'est la rechute. À l'heure d'aujourd'hui, je suis de retour chez ma mère, sans argent, loin de mes amis. Mais je connais la route, la vie est belle, j'ai beaucoup à offrir. Alors je me relève avec la conviction de réussir à nouveau. Parce que malgré ma maladie, j'ai le droit de rêver.
Les êtres de lumière, c'est pour les êtres de lumière.
Effectivement, c'est pas parce qu'on est sorti de la galère qu'on peut pas y retomber et qu'il faut être très attentif en fait.
À travers ce message, on comprend bien quelle peut être la lutte des personnes qui en souffrent.
Et bien, c'est drôle parce qu'en entendant les sons, je voyais des personnes. Je voyais des personnes que j'ai croisées, soit à la côte Saint-André, soit ailleurs, et avec qui parfois il y a eu une rencontre, et parfois non, mais il y aurait pu, et peut-être qu'il m'aurait raconté ça. Et du coup, ça faisait comme si c'était... Ouais, comme dans ce film où un ange voit les gens dans le métro et il entend ce qu'ils pensent à chaque fois, et ça... avec le décalage du temps, puisque c'était pas simultané, mais voilà, moi j'entendais et je voyais en même temps des gens. Ce dispositif, finalement, ça peut tisser des liens entre les gens, peut-être comme des petits maillons invisibles de solidarité ou d'humanité.
Merci à la communauté de communes de Bièvre-Isère pour la confiance accordée à Making Waves. Et surtout, merci et bravo à celles et ceux qui ont témoigné lors de cette formation et qui ont rendu ce projet possible.